Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Dimitri.
Salut Bart.
Comment ça va?
Très bien. Bah, je vais te poser la même question, mais moi en tout cas ça va. Ça va. Fin de journée, petit repos, rien de mieux quoi.
Ouais. Bah écoute, ouais, moi aussi grosse journée. J'ai pu faire un peu du sport là ce midi, donc j'ai la banane et tout va bien. Et effectivement, il est un peu tard, il est un petit peu tard ce soir parce que c'était on a déjà l'agenda bien rempli et en ce moment toi t'es en pleine prépa et tu vas nous raconter un peu tout ça pendant cette interview, mais en tout cas merci d'être là, de prendre le temps. En plus tu connais bien des récents invités d'ailleurs sur le podcast, que ce soit Pierre-Ambroise Boss ou que ce soit Jimmy Vico que j'ai reçu là il y a très récemment et qui m'ont tous les deux dit de des mots très sympas à ton égard. Donc j'étais vraiment hyper content de pouvoir un peu échanger. La fameuse Team One Piece.
Bah, ouais, c'est ouais, les Yonkou, ouais, bien sûr. Enfin, Yond, Niku, on va dire, puisqu'on est trois. ouais, bien sûr. Donc, non, c'est vrai qu'on a un petit terrain d'entente, un petit terrain à nous, qui est One Piece, là-dessus, on pourrait passer des heures. On a déjà passé d'ailleurs des heures, une bonne partie de notre vie à parler de One Piece. Et ça risque de continuer encore, d'ailleurs, des années. Donc, ouais, on a ce côté-là vraiment, on arrive à tous un petit peu s'identifier, quoi. Côté manga, côté culture japonaise, et puis, précisément One Piece.
Ouais, bah écoute, trop cool. Et puis c'est ce genre de petite passion commune qui fait que t'as des amis pour la vie. Et du coup, bah c'est cool de partager ça. Et moi, ça me fait hyper plaisir de pouvoir vous écouter un petit peu tous les trois. Bah écoute, pour commencer, vu qu'on a parlé un petit peu de passion, mais le sujet un peu pour commencer, c'est de discuter un peu de l'enfance. Et moi, la première question que j'adore poser pour lancer cette discussion, c'est de savoir, toi, quel est ton premier souvenir de sport?
Alors, mon premier vrai souvenir de sport, c'est pas que c'est mon premier, mais c'est celui où je me dis que, voilà, dans toute mon enfance, que je garde, comme si c'était hier, quoi. Il est vraiment frais dans ma tête. Et c'est vraiment un lien très fort que j'ai eu avec le sport à ce moment-là. C'est à l'époque de l'Euro 2000, où il y avait, alors on regardait à la télévision, donc on était en comité, assez grand comité, on devait être une cinquantaine, donc c'était dans un restaurant, et on regardait ouais, le match de, voilà, la France contre l'Italie, donc ouais, c'était la finale. Vraiment, on était vraiment à fond derrière la France, parce que bon, 2 ans avant, ils venaient de gagner la Coupe du Monde. Je me souviens d'être tellement être rentré dans le truc, quoi, qu'à la fin, je sais plus combien de temps il restait au temps additionnel où les Italiens menaient, et là, je sais plus quel âge j'avais, hein, bon. Qu'on se pas trop de ma gueule, je devais avoir peut-être 12, enfin je sais pas le calcul, ça fait là, ouais, je devais avoir quand même
13 ans,
ouais 13 ans, voilà, 13 ans, là je suis sorti les larmes aux yeux, j'ai dit ça y est, ils vont perdre, c'est même pas la peine que je reste jusqu'à la fin, je peux pas regarder ce massacre. Et là je dehors, mais vraiment déprimé, franchement je m'étais rarement pris sur quelque chose comme ça. Et là, j'entends vraiment un boucan de fou. Bon, j'avais compris qu'il y avait eu un but. Je pensais, vu le boucan, que c'était plus pour la France que pour l'Italie. Et là, là, je suis parti en vrille.
Ah bah, je crois qu'à ce moment-là, on est 60 millions à être parti un peu en vrille là, de tous les côtés. Ouais, en plus, c'est Sylvain Wildart qui met l'égalisation.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui qui gère là. C'est lui qui nous met bien.
Mais moi, je me rappelle, j'étais dans une colonie dans les Alpes, et c'était une colonie de tennis. Et ouais, et c'était pareil. On avait plein qui avaient quitté la salle, qui râlaient, qui étaient allés se coucher. Je faisais partie des rares qui étaient restés devant la télé jusqu'au bout. Et ouais, du coup, j'ai vu le but en live. Enfin, et après, ouais, bah comme tu l'as dit, on est tous partis sur une autre planète. Et je crois que c'était un des plus beaux moments de l'histoire de l'équipe de France. Hein, ça, c'est sûr.
Ah ouais, franchement. Putain, d'ailleurs, t'étais dans un beau coin pour les regarder aux Alpes et tout. Ça devait être pas mal. J'ai fait la fin d'année en montagne. Bon, c'était pas aux Alpes, hein, mais j'étais pas très très loin. C'était à Bourg-Saint-Maurice.
Ok.
Et du coup, j'adore. Je kiffe vraiment. C'est la montagne, tout ça. Et regarder ce moment-là là-bas, ça devait être un kiff. Ouais, mais en tout cas, non, ce souvenir-là, je te dis, hein, voilà, tu me demandes des détails de l'endroit, enfin voilà, de la salle, le nombre de personnes, tout ça, je m'en rappelle vraiment très très bien, parce que voilà, il y avait une forte émotion ce jour-là, et c'est resté, quoi.
Ouais. Et tu regardais un petit peu l'athlé aussi à la télé ou pas? Est-ce qu'il y a des je sais pas des souvenirs d'athlé qui t'ont procuré des sensations aussi fortes quand
Ben
t'étais
oui,
plus jeune?
si, c'était en 2003, ouais, les championnats du monde à Paris, si je me trompe pas. Championnats du monde à Paris, je regardais, ben, franchement, j'étais un petit peu sur la dynamique de ce qu'avait fait l'équipe de France de football, et moi, je regardais, du coup, voilà, à l'athlé, pour moi, c'était encore un sport, voilà, j'avais encore une distance avec ce sport-là, j'avais pas vraiment fait d'athlé, enfin, si à
Ok.
l'école, vite fait en UNSS, mais c'était pas encore, voilà, le kiff. Et en 2003, je me rappelle avoir dit une chose. Bon, en 2003, j'avais un certain âge, hein, faut pas me juger, hein, quand même. Je m'étais dit, pourquoi l'équipe de France ramène pas plus de médailles? Je m'étais dit ça. Franchement, si je peux en ramener quelques-unes, franchement, ben là, franchement, je serais fier de moi et je serais fier pour la France, parce que là, alors ça, c'est une phrase que j'avais dite à l'époque, et j'avais pas de licence d'athlé, je savais pas que j'allais faire d'athlé,
Ah
je savais pas que
ouais.
voilà, j'aurais eu un lien avec l'athlé un jour, quoi. Pour moi, j'étais encore sous la dynamique du foot, et voilà, la Coupe du Monde, l'Euro, tout ça. Donc c'est le premier la pre mon premier contact assez particulier avec l'athlétisme quelque part, puisque si je savais qu'à ce moment-là, quelques années plus tard, j'aurais pu faire ce que j'avais dit pour la France, ça m'aurait un petit peu choqué, quoi. Je me dis, ah ouais, d'accord.
Ouais, bah tu sais, des fois on dit, quand on est jeune, ça arrive de dire, on parle un peu avec le cœur, tu vois, aussi on parle un peu avec les tripes et on réfléchit pas toujours, donc pas de jugement par rapport à ça, quoi. Mais du coup, à 16 ans, tu faisais pas d'athlé, quoi.
À 16 ans, je faisais pas non alors c'était ouais, à 16 ans, en fait, je faisais pas j'avais pas de projet d'athlé, quoi. Enfin, pour moi, c'était à 16 ans, je faisais du foot, de la natation, et je faisais de l'athlé, mais en UNSS, c'est-à-dire j'étais obligé, quoi. C'est les profs, ils savaient que je courais vite, ils me respectaient pas, parce que quelque part, j'avais un projet en football, voilà, j'étais mon idole à l'époque, c'était Bernard Lama.
Ouais.
J'avais fait mon oncle m'achetait sa combi, enfin ça, il avait une combi complet, pantalon haut, manche longue vert, pantalon noir, et les crampons noir et blanche Adidas. Voilà, j'ai craqué, j'ai dit, allez, moi je vais être pareil, je vais être comme lui. Donc c'était à ce moment-là. Le projet d'athlé, il était vraiment inexistant, quoi. Donc
OK.
c'était pas du tout là-dedans. Donc non, c'est vraiment venu après, en voyant que justement en athlé, j'avais des on va dire, des petites compétences qui me permettraient de voilà, de pas finir dernier, quoi. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans.
Bah, qui l'eût cru, le remplaçant de Bernard Lama, finalement se retrouve sur des 110 mètres haies. Donc,
Moi.
mais à quel moment, du coup, tu commences vraiment l'athlé de manière sérieuse avec une licence en club et tes premières compétitions? Ça doit arriver assez rapidement quand même.
Bah, c'est arrivé l'année d'après. C'est arrivé l'année d'après, vraiment, où. Alors c'était non, alors 16 ans, ouais, quand je me suis lancé vraiment dans les championnats de France. Les championnats de France, et voilà, l'année d'après, je fais mes premiers championnats de France en cadet. Et là, je
Ouais.
vois un petit peu je vois c'est quoi le monde de l'athlé, je vois c'est quoi des championnats de France, parce que quelque part, j'avais jamais fait de championnat de France. Quand j'étais petit, pour moi, qu'importe le sport, les championnats de France, c'était un truc de ouf.
Bah
Du
ouais.
coup, je me suis dit, bah putain, je fais des championnats de France, quoi. Donc c'est peut-être là, hein, c'est peut-être ce sport que je dois faire. À l'époque, moi, je sais que ce qui me faisait kiffer en athlé, c'était le lancer de javelot. J'adorais voir le javelot Surtout le focus qu'il mettait, la caméra sous le javelot et puis le voir vibrer dans les airs et tout. Bon, on pouvait me faire kiffer avec n'importe quoi à l'époque, mais ça j'adorais quoi. Donc ouais, j'étais pas encore épris d'athlée, pas de haie, de sprint. Non, c'était ce qui m'a lié avec l'athlétisme, ce qui quelque part c'est la pratique pure quoi. C'est-à-dire de faire, enfin c'est quand je pratique vraiment moi-même que je ressens le plaisir à faire de l'athlétisme et voilà, j'ai un plaisir à ressentir l'athlétisme à travers moi. Je suis pas dans. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, si je cours pas dans un championnat, je vais pas être forcément attiré à le regarder. Je vais peut-être regarder les finales, mais je ressens pas vraiment l'intérêt de perso de regarder les championnats. Tandis que lorsque je suis à fond dans un championnat d'athlétisme, je le vis mais à 200% quoi. Donc ça c'est paradoxal.
Ok. Et c'est à quel moment du coup que tu te spécialises sur les haies? Parce que tu sais normalement quand on fait de l'athlé au début, on en discutait un peu avec Jimmy, mais tu fais le l'espèce de, enfin le ce qu'on appelle le triathlon classique quoi.
Ouais,
tu fais de la
voilà, c'est
course,
ça.
de la
À
longueur
l'époque,
et un peu de poids, c'est ça?
ben ouais, je faisais un petit peu de poids. Enfin, j'ai tout fait. Hein. J'étais pas mauvais dans la plupart des disciplines. D'ailleurs, on hésitait à me faire faire des épreuves combinées. Mais bon, j'avais quand même une belle lacune en demi-fond. Bon, voilà, j'étais pas très course longue. J'étais pas très course de fond et. Je sais que moi, la dernière course de fond que j'ai faite, elle a fini sur un brancard, donc j'en garde pas un très bon souvenir, quoi.
Tu nous racontes? Ça a l'air
Ben,
marrant.
alors ça, c'était d'ailleurs, j'étais en UNSS encore à cette époque-là. Et tu sais, à l'époque, on faisait faire des crosses, des crosses, quoi. Enfin, les crosses, pour moi, c'était une épreuve, c'était presque une punition, quelque part. Et les crosses, alors moi, alors en plus moi j'ai une lacune comment dire, on va dire dans mes qualités physiques. Bon, je suis pas mauvais, enfin je peux être, on va dire passable sur les épreuves longues sur du plat, mais dès que ça monte, mais il y a plus personne quoi. Tu mets 100 mètres de montée, la jauge d'énergie si elle était à 98, elle est à la fin elle est à 4%. Et donc du coup, franchement, dernier cross, c'était quoi? Forcément, un endroit avec des côtes et des descentes, des trucs sinueux, voilà. Je morfle clairement pendant tout le cross. Et au bout de ma vie, vraiment, j'avais un langue qui traînait. Enfin, c'était cherchais des fruits, cherchais de l'eau sur la route. J'avais besoin de m'arrêter chez les passants, enfin chez les gens pour demander de l'aide, mais je pouvais pas quoi. Donc du coup je continuais. Et là, alors en fait on est parti d'un stade, on a tourné un petit peu dans les environs du stade, donc c'était dans des zones des résidentielles tout ça. Et en fait alors ça c'était comme sur une colline, en fait le stade était au sommet d'une colline, donc on tourne tout autour du stade, et on descend un long moment, on descend, on descend, on descend. Et là, à un moment donné, ben, pendant la descente, d'ailleurs, je faisais le flemmard, je me dis, putain, on descend, on descend, je vais pas trop faire malin, parce qu'à un moment donné, va falloir remonter. Arrivé tout en bas, là, je me dis, bon, allez, tu prends ton temps, tu montes petit à petit, tranquille, t'excites pas, lorsque tu vas commencer à avoir le crépuscule, du sommet, voilà la lumière blanche du tunnel quoi, ben tu vas pouvoir si t'as un peu d'énergie taper une accélération. Donc je cours, je vois rien, je monte, je vois rien, il y a encore rien. Bon, ça a duré bonne quinzaine de minutes. Et là, enfin, je vois le sommet, je vois la lueur blanche, tu sais. Donc du coup là, je tape le sprint de ma vie parce que je sais, je crois que j'apercevais la lumière du, enfin les spots lumineux du stade. Et là, je tape le sprint du siècle. Je me dis, ben, de toute façon, si je vois le stade, c'est que derrière, l'arrivée, enfin, elle est là, quoi. Derrière le truc, machin. Donc, je tape le sprint comme jamais. Et là, j'arrive Et c'est pas t'as un juge qui vient et qui dit ok, c'est bien, allez, encore un tour de stade.
Le classique,
Il me
un
parlait pas
tour en
du tour
plus.
de 400 mètres, hein, il me parlait du tour de tout le stade, c'est-à-dire on passait par le parking, on remontait par derrière. En fait, je les voyais au loin courir. Là. Ça allait plus fort parce que moi, je n'étais pas du tout devant, je devais être vraiment en queue de peloton et encore. Et là, je les vois au loin, en train de courir, cavaler. Limite, ils arrivaient déjà, les autres, mais je les vois. Je dis, mais c'est ça, là, le tour de stade. Et je sais pas ce qui s'est passé, craquage mental. Là, j'ai un genou qui fléchit et lumière blanche, voile blanc. Et quand j'ouvre les yeux, je me retrouve sur un brancard. Elles sont venues, mais c'était clairement du craquage mental. Hein. C'était pas. Moi, je pense que tu me mettais De Lyon enragé derrière à ce moment-là. Crois-moi que ton distal il aurait été fait, mais j'avais pas cette volonté. Encore, j'avais pas encore cette volonté de souffrir. Je me demandais pourquoi je dois souffrir autant pour finir en cross qui va m'apporter. Qu'est-ce qui va apporter ce crossa? Enfin, je voyais pas l'intérêt personnellement. Peut-être que si on me disait que, je sais pas moi, t'aurais eu à ce moment-là un abonnement gratuit, une semaine à McDo à l'époque, j'aimais McDo, mais si aujourd'hui j'en ai plus, peut-être que là, à ce moment-là, j'aurais fait le tour de stade à fond, mais il y avait vraiment aucun enjeu, aucun intérêt pour moi. Donc du coup, je suis tombé et on est venu me ramasser sur un brancard. Le sentiment d'abandon, il était très fort. Hein. C'était ouais. Très, très très difficile à vivre. mais bon, je m'en suis remis.
Ok. Bah écoute, merci pour cette petite anecdote parce que je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui se reconnaîtront dans ces premiers crosses en tant qu'ado à essayer de tout donner et parfois on craque, hein. Parfois on
c'est
craque
horrible,
complètement.
C'est
je pense que...
horrible. Ouais.
Ah mais qui n'a pas vu un peu la lumière blanche.
Ça franchement, moi je pense que c'est une erreur de l'approche qu'on peut avoir en athlétisme de mettre les jeunes dans des crosses quoi. Enfin pour moi c'est ce que j'avais c'est une des premières expériences que j'ai eu de l'athlé mais derrière il a fallu me convaincre hein, pour revenir sur un stade quoi.
Tu m'étonnes ouais. Bah c'est peut-être le biais du survivant mais en tout cas toi t'es plutôt bienvenu donc
c'est ouais mais c'est ça mais derrière tu t'avais pas me remettre sur au départ d'une course de fond
tu m'étonnes.
Toi t'en as fait un petit peu des courses de fond jeune aussi hein, au collège.
Ouais carrément bah, j'étais pas mauvais en athlé au collège. Après moi je faisais beaucoup de tennis, c'est ça qui me prenait la majeure partie de mon temps, mais ouais j'avais un prof de PS notamment qui était triathlète qui a fait Mais je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs et il écoute d'ailleurs Monsieur Fallou, si vous m'écoutez je vous souhaite le bonjour et c'était un triathlète, c'était un mec qui faisait le marathon en 2h50 quoi. Il était très très costaud et il voyait que je courais bien parce que alors j'étais pas dans les ouais j'étais troisième quatrième cinquième sur les crosses et du coup
ouais,
on a
quand
traîné,
même,
on a
ouais.
fait Ouais, on a fait des petits crosses départementales, on a fait les régionales, mais j'ai jamais réussi à aller plus loin.
Ah
ouais. Mais
à l'époque, moi, les 10 premiers, c'était des héros. Hein. Je dis ça bien.
Mais alors, il devait y avoir du niveau. Je suis sûr que le niveau était très élevé. Parce qu'en plus, toi, t'étais en Martinique, donc vous faisiez ça par quelle météo? C'était quoi? C'était le matin à 6h avant que le soleil se lève?
Déjà c'était le matin. J'ai jamais été très du matin moi. De toute façon, hein. Déjà là c'était déjà une épreuve. Enfin c'était déjà la première épreuve pour moi. C'était de me dire que ce matin, voilà, à 6h, parce que les départs des crosses c'est du n'importe quoi là-bas. 6h, on va commencer l'échauffement. Voilà, on se prépare pour partir soit à 6h30. Et pour les meilleurs, enfin pour les crosses, c'est plus sympa, elle est plus tranquille, c'est 7h. Donc, j'y allais quand même, mais derrière le soleil, il tapait quand même. Moi, je pense qu'il faisait ça aussi par rapport au soleil, parce que dès 10h aux Antilles,
ouais,
le soleil de 10h, on connaît, hein, pour les connaisseurs, là, un soleil de 10h, il fait aussi mal que il fait presque aussi mal que celui de 14h, quoi. Donc courir là-dessous là, tu le sens quoi. Et du coup, mais 7h, ça pique quand même aussi. Donc ouais, c'est moi je trouve. Enfin, de toute façon, les conditions tropicales pour les courses de fond. Je pense que c'est les pires, hein. Tous ceux qui font des courses de fond, qui font du long, je pense qu'ils peuvent facilement valider ça, quoi. Courir ouais. dans des conditions tropicales et chaudes, déjà c'est humide, donc tu transpires les premiers 400 mètres. Et à la fin, t'as l'impression d'avoir fait deux fois ta course, quoi. Donc, c'est particulier.
Ah ouais, bah clairement, tu fais un 800, tu peux essorer ton t-shirt, il y a 3 litres qui tombent. Mais ouais, comme je te disais, j'ai un peu de famille du coup en Martinique, du coup je connais bien et je connais cette sensation là. Et moi c'était on se levait à 6h pour être sur le court de tennis de 7 à 8 et là à 9h d'un seul coup le soleil il se lève plus tôt, mais dès que le soleil il se lève 20-30 minutes plus tard, tu prends quasiment 10 degrés d'un coup. Et là, c'est plus tenable, quoi. T'es plus le même sportif. Franchement, t'es plus le même athlète.
Ah non, mais le truc, il te met un hippon. Franchement, ouais, il te passe la première, le soleil. Et ensuite, il te passe la seconde vers 10h, à partir de 11h et tout. De toute façon, c'est même plus la peine. Hein. Là, faut prévoir à limite des soins ou une glacière de glaçons au cas où tu te fais un malaise ou une insolation. Non, pour moi, l'entraînement dans les... bon, quand t'es jeune, t'as un peu de pêche, donc il y a plein de jeunes qui arrivent à tenir sous le soleil de jusqu'à 11h midi, même dans les collèges, il y en a qui ils essaient maintenant de mettre des halls couverts parce que les pauvres mômes ils crament, quoi. Donc derrière, ils peuvent quand même pratiquer, faire du basket ou bien même s'abriter lors des récréations, tout ça. Mais le soleil du matin, faire du sport là-dessus, pour moi, l'heure idéale aux Antilles pour faire du soleil, c'est à partir de 17h, 18h, 17h des fois encore ça tape, mais 18h ça commence à aller. L'avantage, c'est que derrière il fait vite nuit, quoi, mais au moins tu sais que 100% de ton énergie va être dédiée à ta séance, pas 60% pour tenir sur la chaleur et le reste, tu fais ce que tu veux, quoi.
Ah ouais. Et d'ailleurs, ça n'a pas été trop dur pour toi l'arrivée en métropole, tu vois. Je sais que du coup, pour avoir quelques copains qu'on fait un peu le même parcours que toi, quoi, qui sont allés à Paris vers 18-19 ans après le bac. Je sais que pour certains, ça a été compliqué, quoi. À la fois la météo, les gens, Paris, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas tous, hein, mais en tout cas ceux que je connais, ils sont tous allés à Paris pour faire leurs études. Et toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que moi, je vois l'adolescence dans les Antilles. Je vois vraiment ça comme un rêve, et j'aimerais vraiment que mes enfants puissent le vivre, parce que t'as la mer, parce qu'il fait beau, il fait bon vivre. Mais comment est-ce que toi tu l'as vécu, le fait effectivement de changer complètement de climat et puis d'être un peu loin de ta famille?
Ben, franchement, ça s'est joué sur un truc assez bizarre. J'étais pas forcément, on va dire, à l'école, j'étais l'élève rêveur, quoi. C'est-à-dire, je voyais pas. Après, voilà, je suis un petit peu dans des intérêts, un petit peu des fois. Pas particulier, mais c'est vraiment sur ce qui m'intéresse. Donc à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était le foot, j'adorais les chiens, je faisais des élevages de chiens, enfin voilà. Ouais. Quand j'avais pas un intérêt sur quelque chose, je rêvais très vite, quoi. Donc l'école, s'il fallait avoir si tu mets un examen à avoir, tu me dis tiens, cet examen là il va te permettre de passer à l'étape suivante, je vais me donner à fond et sur l'examen, et tu peux être sûr que l'étape suivante, je vais y aller, quoi. Je pars du brevet, par exemple. Je disais, si le brevet tu l'as pas, tu restes au collège. Du coup, alors que j'étais un petit peu catalogué comme le mauvais élève qui apprend pas, qui s'en fiche un petit peu, lorsqu'on m'a dit que le brevet il allait me faire passer à l'étape suivante, j'ai même eu des 16, j'ai eu des 14, le truc improbable. Les profs, ils comprenaient pas. Ils, franchement, on va même pas essayer d'étudier ton cas, toi, parce que je pense qu'on est perdu de temps. Et du coup, quand voilà, le choix de partir en métropole s'est fait justement quand je suis allé faire ma pré-rentrée pour aller dans un lycée professionnel, voilà, dans un lycée où mon père travaille, parce qu'il travaille dans un lycée pro, et j'ai vu un petit peu l'achat du matériel, tout ça, machin. À ce moment-là, j'avais déjà fait les championnats de France et tout, et j'ai vu l'achat du matos qu'il fallait et tout. Enfin voilà, c'était pour faire électrotechnique. Et là, je me suis dit franchement, ça me dit rien, quoi. Ça me dit rien. Allez, je me barre. Et là, parce qu'en fait, ma mère m'avait dit. Alors ça, je l'ai dit le jour de l'après-entrée. Hein. Enfin, non, même pas le jour d'après. C'est qu'on allait chercher le matériel pour la rentrée. Enfin, justement, qui nous avait donné la liste de matériel à l'après-entrée. C'est en allant chercher dans le magasin que j'ai dit ça. Je lui ai dit, allez, c'est bon, je me barre. Et deux semaines après, je prends le billet et je me retrouve en France à Aubonne au CDFAS. À l'époque. Non, je me suis dit bah tiens, allez, je vais me lancer là-dedans, on va voir ce que ça va donner. J'ai entendu que les écoles de sport et études déjà ça facilite les études et puis en plus on peut s'entraîner tranquille, donc ça se trouve. J'ai bien aimé les championnats de France. Donc, du coup, ça se trouve, je vais aller là, je pourrais en faire plein, et puis jusqu'au jour, je pourrais gagner, quoi. Donc, ouais. Franchement, voilà, c'est ce qui m'a, voilà, le fait d'avoir fait les France et puis le fait de pas avoir vu l'intérêt de rester dans la filière que j'avais choisie en professionnel, a fait que voilà, je me retrouve là aujourd'hui.
Ok. Bah écoute, ouais, hyper inspirant, je trouve, tu vois, ce petit départ un peu sur un coup de tête où t'as tout risqué, quoi, presque. Enfin, tu vois, tu pouvais pas tout perdre, mais c'était pas du tout garanti. En fait, finalement, moi j'ai l'impression, quand je t'entends, que t'avais pas d'autre choix que de réussir.
Enfin, pour moi, non, je pense pas que... Moi, à l'époque, je me voyais pas forcément... Enfin, je me projetais pas sur des objectifs particuliers où je voulais réussir ou quelque chose comme ça. On va dire que je me fiais simplement à ce que j'aimais, quoi, ce qui me faisait, qui me stimulait quelque part. À l'époque, c'était l'athlée. Du coup, après avoir vu les championnats de France ou ça, je me suis dit, mais tiens, ça me parle bien. Pourquoi pas, quoi. Enfin, mais par contre, si je le fais, c'est à 100%. Derrière, ouais. Moi, enfin voilà, enfin je veux ce que j'ai vu qu'ils n'ont pas eu en 2003. Donc, donc et je veux apporter ça, je veux montrer que je peux apporter quelque chose quand même si je me lance là-dedans. Donc si j'y vais, c'est pas pour faire un fiesta, hein, c'est pour me mettre dans un truc sérieux, quoi.
Ouais, bah j'imagine. Et tu l'as bien prouvé après, quoi. Mais tu vois, il y avait une des questions d'ailleurs que ça me mêle un peu avec le sujet, mais moi que je me pose, c'est sur toi, c'est enfin la chose que j'admire le plus chez toi, c'est vraiment je trouve la carrière longue que tu arrives à avoir et le fait que en fait t'as vraiment eu des performances, je trouve, t'es arrivé très vite au haut niveau et t'as réussi à rester, tu vois, à ce plateau là et toujours à même te dépasser, à battre un peu tes records et à rester au top niveau. C'est quoi tes petits secrets pour ça? T'as parlé de McDo, j'imagine que c'est pas ça ta recette secrète. Mais...
Ben, j'ai cru un moment, mais non, franchement, j'ai essayé une année, ça a rien donné. Non, mais franchement, après, tu sais, ça se trouve, je me dis, ça se trouve, en fait, je suis juste loin à l'apprentissage. Peut-être à 40 balais, je vais enfin comprendre le 110 mètres. Et c'est, je suis long. Alors, on va dire que je suis long, mais au moins, ça continue à monter, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que j'essaie de garder une progression chaque année. Enfin, je faisais en sorte pour que, enfin, de toute façon, le sentiment de stagner et de régresser, c'est quelque chose, voilà, que je supporte pas. Donc, j'ai toujours besoin de sentir que, voilà, ça avance, ça, qu'il y a un truc en plus et ce truc en plus, il est bien, quoi. Il est stimulant, il est, voilà, quoi. Donc, moi, je pense ce qui me fait progresser en athlée, c'est ce côté-là un petit peu de ma personnalité, c'est que, voilà, j'ai envie que à chaque année, je trouvais même que c'était un défaut parce que pendant une saison, je pensais déjà à comment améliorer la saison d'après. Enfin, concentre-toi sur ton saison, gars, déjà. Et après, fais un point. Mais pense pas à la saison d'après alors que celle-ci, peut-être même pas encore commencé. Donc, ça, c'est pour moi un défaut hein, que j'ai eu pendant un moment. Là, j'arrive plus à kiffer mes saisons et à moins penser à la suite. Et mais c'est aussi, alors c'est à double tranchant, on va dire, c'est quelque part la qualité de ses défauts, c'est ça, c'est que derrière, ça me pousse à continuer sur ma progression et à continuer à aller chercher le max du max et j'ai envie tant que l'envie est là, j'ai envie de dire ben je vois pas de bon il y aura une fin hein, mais forcément je pense qu'à 50 ans là quand je prendrai le départ avec des béquilles ou devoir faire des bains chauds, bains froids juste avant le départ je sais pas peut-être que là il faudra que je prenne une décision mais là en tout cas je vois pas de pour l'instant j'ai encore l'envie quoi j'ai encore l'envie et je pense que c'est juste ça en fait j'ai pas un corps qui pense qu'il tient plus. Je pense que je me donne juste les moyens pour que ça soit faisable. J'ai pas, enfin, j'ai rien, je pense, de particulier par rapport à un athlète qui a des compétences dans son sport. Et c'est juste que derrière, voilà, je suis toujours sur cette envie d'évoluer, quoi.
Ouais. Et il y a des choses qui ont changé peut-être un peu dans ta préparation ou dans la manière justement avec laquelle tu traites ton corps, parce que bah, peut-être pour rappeler aux auditeurs, je crois que tu as eu ton premier titre de champion de France en 2009, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, en 2009, juste avant Berlin.
Donc tu vois, c'est donc tu es déjà au top niveau français depuis très longtemps. Est-ce que justement, ouais, tu te prépares différemment, tu fais les choses différemment comparé justement à quand tu avais cet âge-là. Est-ce que il y a des choses qui changent du coup avec la longévité et avec l'expérience, peut-être en termes de
Ben oui,
volume?
alors, moi, je m'étais dit. Comme quelque part au fond je sais que je suis lent à la progression mais après on va dire voilà c'est nos limites quoi nos limites lent mais je toucherai le plafond mon gars donc du coup je me suis dit à un moment donné hein, dans ma jeunesse enfin, je me suis dit ben tiens déjà là si j'ai pas besoin de si c'est con hein, comme ce que je veux dire c'est très con si j'ai pas besoin de soins de kiné c'est que mon corps il est capable de récupérer tout seul et tant que j'aurai pas besoin de soins de kiné c'est-à-dire que voilà Wolverine le mec il récupère tout seul le mec immortel jusqu'au jour ça a pu marcher forcément ça a pris du temps hein, j'ai tenu comme ça peut-être jusqu'à 28 ans quoi c'est n'importe quoi donc passé 28 ans, là, je commençais à cavaler, vraiment cavaler. Même si avant j'avais déjà fait des saisons pas mal, hein, mais où on va dire que j'ai trouvé une régularité. Passé 28 ans, c'est là où vraiment j'ai commencé à dû me mettre dans vraiment une vie vraiment de ce qui pourrait être un athlète de haut niveau, c'est-à-dire des soins réguliers en kiné, en ostéopathie, apprendre à connaître son corps, ses sensations. Apprendre à se ressentir quoi, apprendre à savoir exactement comment je récupère, qu'est-ce qu'il me faut, où je manque de souplesse, où je manque de force. Ça, c'est des trucs que je me posais pas, je me suis jamais posé la question de sur enfin je suis jamais allé sur ces terrains-là quoi. J'écoutais juste l'entraîneur Derrière, en parallèle, je faisais quand même des formations en préparation physique. Et voilà, mais ça, c'était vraiment pour faire des études, quoi. Voilà, les compétences, heureusement, vu que j'étais dans le milieu, ben, je les ai toutes gardées, hein, les compétences d'entraînement, puisqu'aujourd'hui, je m'entraîne tout seul. Mais à l'époque, voilà, moi, c'était que du kiff. Il y avait l'entraînement et les coups. Enfin, l'entraînement. Certains entraînements et des compétitions, c'est ce qui me faisait kiffer, et je voulais pas me poser de questions. Et là, je vois que, par exemple, ces 4 dernières années, je dois me pencher à fond sur voilà, comment entretenir les qualités physiques, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se perd avec l'âge. Bon, les haies, on a une forme de, en fait, ça demande certaines qualités sur les haies qui fait que, voilà, on peut durer longtemps, mais ça demande, ok, d'accord, des qualités. C'est-à-dire, on a plus de chances, on a plus facilement de chances d'avoir des qualités qui permettent de durer longtemps sur les haies que sur le sprint, par exemple. Mais il y a quelque chose qui se perd avec l'âge aussi, c'est, on va dire, l'élasticité, tout ça. Et on sait que voilà, on a besoin d'énormément de souplesse sur les haies. Et du coup, qu'est-ce qui ferait que voilà, je continuerais à garder cette élasticité que j'ai eue jeune? Par quoi ça doit passer? Rien n'est impossible. Pour moi, je parle de ce principe, rien n'est impossible. Voilà, Tim Collins, il a battu son record à 40 ans. Et je pense qu'enfin, ce qu'il a arrêté, c'est plus sa vie de famille qu'autre chose, et puis peut-être un ras-le-bol. Et ouais, donc voilà, rien n'est impossible. Et du coup, quelque part, je vis mon propre film. J'ai envie de voir jusqu'où je pourrais aller, quoi.
Bah c'est hyper inspirant, je trouve, tu vois, la façon avec laquelle tu le dis et la façon avec laquelle tu abordes le sujet, quoi. Je trouve ça c'est hyper inspirant. Enfin, tu vois, moi aussi je suis souvent en train de me dire c'est voilà, c'est peut-être mon centimètre est à moi, mais tu vois, avec le podcast, tu vois, typiquement j'ai commencé tout seul dans ma chambre avec un petit micro, et puis là aujourd'hui je suis avec toi, et puis demain je serai peut-être avec je sais pas Zizou, j'en sais rien, mais je me dis
Non,
jusqu'où
mais
est-ce
ça
que je
c'est
pourrais
bien,
aller?
franchement, ça, et ça, enfin, t'as commencé à vouloir faire ça quand ça date ou
Bah en fait
c'est
j'ai
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, j'ai toujours, et moi j'ai toujours été passionné de sport, et j'avais toujours envie comme j'ai pas pu être sportif de haut niveau, peut-être parce que j'avais peut-être pas le mental, ou j'ai peut-être pas trouvé mon sport. Je pense qu'il faut aussi trouver son sport, tu vois. Je pense qu'il y a une part de chance un peu
Ouais, bien sûr.
là-dedans. Tu vois, si mes parents m'avaient mis, je pense, je sais pas, au lancer de poids ou au lancer de marteau, je pense que j'aurais été encore plus nul. Mais tu vois, j'ai pas trouvé mon sport. Mais pourtant, j'ai une fascination, ouais, pour tous les athlètes de haut niveau. Et depuis longtemps, je me dis, mais en fait, j'avais envie d'écouter leurs histoires, quoi, et de les écouter un peu en plus en profondeur, de savoir un peu ce qui se cachait derrière, et de comprendre un peu c'est quoi les secrets de la performance. Et du coup, c'est comme ça que c'est parti. Et voilà, maintenant, ça fait plus d'un an et demi maintenant.
Ah ouais.
Et je m'arrête pas. Là, moi, je me dis, mais je suis un peu comme toi. Je me dis, mais moi, je me vois encore faire ça 10 ans. Tant que je m'éclate, tant que j'ai envie. Mais c'est un régal. C'est un régal.
Et puis j'ai envie de te dire, c'est un travail, enfin, ce que tu fais là, c'est que c'est quelque chose qui va rester et qu'on pourra retrouver même des années plus tard, quoi. Donc, ça laissera une
Bah,
belle
j'espère.
trace.
Ouais, exactement, j'espère, j'y pense souvent. Je me dis, tu sais, c'est marrant parce que j'étais avec mon fils cet après-midi, et je me disais, bah, je me demandais comment lui laisser une trace, tu vois, de quand il était bébé, à part les, tu sais, il y a plein de photos et tout, mais comment je pourrais lui parler, tu vois. Et je me dis, bon, bah, en fait, il pourra peut-être m'écouter dans quelques années et se rendre compte de qui était son papa quand lui, qu'il avait que 10 mois ou 11 mois, donc,
mais ouais.
Donc, une trace. Et ouais.
Ouais, carrément, c'est le type, en ça.
Et j'avais vu un truc, alors dis-moi si je me trompe, mais j'avais vu que pour justement pour un coureur de haies, t'étais pas le plus grand et que du coup le fait que tu sois peut-être un tout petit peu plus petit que la moyenne, bon tu fais quand même plus d'un mètre 80 je crois,
1m81, 82. Je fais 1,81 et demi, j'ai rajouté demi, hein, les centimètres sont prêts.
Il est important, ouais, exactement, ouais. Mais et du coup, j'avais lu que dans les haies, ça te forçait à avoir une meilleure technique que les autres, parce que du coup, bah, t'es un peu plus bas et du coup, c'est peut-être un tout petit peu plus dur de passer les haies. C'est un point fort que t'as construit avec le temps. Comment ça se bosse, tu vois, la technique des haies? Il faut en passer des milliers, mais je sais pas, il y a des gammes sur les haies. Dis-moi un peu comment ça se travaille un peu justement le passage de haies, vu que toi t'es une des références en la matière.
Bah franchement ouais, c'est vrai que j'ai un physique assez on va dire particulier, ça fait bizarre de dire ça, mais on va dire j'ai un physique je sais pas ce qui s'est passé, peut-être j'ai deux grandes jambes, tu vois, j'ai deux très grandes jambes par rapport à mon haut du corps. Si mes jambes étaient proportionnelles, donc du coup à mon petit haut du corps, je ferais. Alors on avait calculé avec sur la moyenne, de base, enfin haut du corps, hein, bas du corps, hein, je ferais à peu près 1m68, quoi. Donc quand je je m'assois par exemple à côté de personnes qui sont normalement constituées, je suis le plus petit de la table. C'est très gênant, tu vois. Enfin, je suis seul à le remarquer au début et à la longue. Il y en a qui me regardent un peu avec jugement, quand ils disent mais c'est qui ce petit là? Et j'attends qu'une chose, c'est la fin du repas pour regarde. Et à contrario, si j'étais proportionnel à la taille, à mon haut du corps était proportionnel à mes jambes, je ferais 1m92 exactement, avec une enfourchure de 92 cm. Je sais pas si c'est passé Dieu, ce qu'il est, voilà, si il s'est trompé ou il sortait d'une soirée arrosée, il s'est trompé de mesure, mais ouais, il y a un truc qu'il a loupé, je pense. Enfin voilà, mais en tout cas moi ça m'a permis de passer les haies et efficacement en plus. Puisque derrière j'ai aussi des longs bras, donc ça me permet un peu de faire balance, quoi. Voilà, j'ai les bras qui arrivent debout à peu près à la hauteur des genoux, donc du coup quelque part tout ce qui est enjambement voilà, c'est mon terrain, ça. Enjambement de barrière, tourniquet, SNCF, tout ça c'est mon terrain, tu vois. Donc, ouais, c'est pour les haies, du coup, je parais petit. Mais après, je me dis, si j'avais un haut du corps plus long, peut-être que je serais plus lourd. Donc, du coup, finalement, je gagne des kilos. Voilà, c'est un peu mathématique tout ça. Ça me fait un corps adapté pour les haies, mais c'est juste ça, quoi. De grands bras, de longues jambes avec un tout petit torse et une enfourchure de 92 cm et derrière donc du coup ça trompe, c'est un trompe-l'œil pour certains lorsqu'ils me voient, ils disent ah, il est petit, mais en fait voilà, il a une belle enjambée, quoi, il les enjambe bien voilà.
Écoute, c'est marrant parce que moi en regardant tes photos un peu sur Insta, je me serais jamais dit tout ça, quoi. Au contraire, moi je me suis dit waouh, quel athlète et tout, il est bien foutu. il est vraiment sec, les abdos, gros pec et tout, j'aurais jamais deviné ça, quoi. Mais du coup bon, je regarderai.
Ouais, c'est là il y a, ouais, tu verras que progressivement tu vas voir la carotte, hein, il y a un truc pas net là quand tu regardes.
OK. Mais en fait du coup ça joue carrément à ton avantage, en fait, parce que du coup tu as ton centre de gravité qui est plus bas que les autres.
À un moment donné, il faut que ça mène, hein, parce que là
Ok, d'accord. Ok, mais ouais, ça
Ouais.
t'aide carrément en fait. C'est un super point fort.
Ouais.
Okay.
Bah
Mais
ouais, là, bah ouais, ça, j'ai envie de te dire, hein, tout ce qui est enjambement, ça me facilite les choses, hein. Si tu vas à l'extrême, si mes jambes commençaient à ma tête, les tourniquets, je les enjambrais d'une foulée, quoi. Tandis,
j'en
et
connais.
à contrario, si mes jambes commençaient, enfin, finissaient à mes chevilles, ce serait pour les haies, je sais pas comment je ferais, quoi. Je
Bah,
roulais en
j'en
roulette.
connais un qui a une petite note avec, à la, avec la RATP à Ermont-aux-Bonnes et à Château de Vincennes.
Ouais.
on va pas leur dire, on va pas leur
Non,
dire.
non, faut pas dire, faut pas dire.
Ok, mais bah ok ouais, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois des fois je parle un peu de morpho-anatomie avec certains athlètes et de leur demander un peu dans leur sport quelles sont les morpho-anatomies qui peuvent être plus aidantes ou qui peuvent être plus favorables. Et toi ouais t'as carrément bah, t'as carrément mis des mots dessus quoi et ça sent que le sujet t'a intéressé quoi
Ouais, à un
hyper
moment donné, je me suis posé la question, tu vois, à force de voir ça tous les jours. Parce qu'en plus, au début, je comprends pas tout, surtout quand il n'y a pas trop de masse musculaire. Quand il n'y a pas trop de masse musculaire, t'as envie de te, enfin, j'ai envie de te dire, t'es entre, dans un mélange entre, je sais pas moi, Iti et le Yeti. Enfin, c'est assez bizarre. Et t'as deux tiges, t'as deux, enfin, t'as un torse entouré de quatre longues tiges, tu vois, c'est pas joli joli. Donc
c'est
quand voilà, t'es obligé de quelque part de prendre un peu de masse musculaire et pour mettre un petit peu de forme dans tout ça, quoi. Enfin voilà, ressembler à quelque chose. Donc ouais,
Non,
c'est
non, non, toi, t'es méchant avec toi-même parce que, en vrai, t'es un super athlète. Moi, je te dis, je me doutais absolument pas de ça en te regardant en photo. Au contraire, je me disais, bon, va falloir que je me rentraîne un petit peu là. L'hiver, va falloir que l'hiver soit, que je passe un peu
Je t'ai dit qu'il y a une carotte, voilà,
plus.
tu verras progressivement sur les photos que voilà, là ton torse est bizarre, et que je sais pas si c'est son torse, son bassin, enfin bon bref, c'est
Bon, on a tous une petite carotte, on a tous une petite carotte, on a tous un petit blocage. Mais ouais, je voulais changer un tout petit peu de, même changer complètement de sujet.
allons.
Je voulais parler de cette super médaille que t'as eue, qui était la première médaille olympique sur les haies sur la discipline depuis 40 ans, il me semble, que t'as eue à Rio. Et ouais, j'avais envie de te l'entendre raconter parce que quand je regardais un peu les vidéos, il y a deux trois vidéos qu'on te voit à l'arrivée dans où t'es avec, je crois c'est avec ton coach, il me semble,
Ouais.
et on voit un mec super heureux, et je me suis dit ça c'est son plus beau souvenir, et je me suis dit est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette journée-là? Est-ce que t'étais sur un petit nuage? Est-ce que c'était une journée est-ce que c'était une journée parfaite ou est-ce qu'à l'inverse c'était une journée un peu chaotique? Mais ouais,
Ouais,
comment
ouais.
tu te réveilles le matin de la finale?
Alors déjà, matin de la finale, ben je peux te dire que déjà c'était à l'issue de 3 jours, 2 jours de compétition, donc nerveusement, en fait nerveusement tu sens pas que t'es cuit encore, t'es dans un état de transe quelque part, mais un état de transe que tu dois gérer parce qu'il faut dormir, quoi. Donc le matin, bon les nuits elles étaient pas top top, hein, les nuits elles étaient très légères. Je dormais quand même, mais c'était très léger.
C'est
Et
quoi, c'est le stress qui t'empêche, enfin c'est l'euphorie, l'adrénaline
voilà,
qui t'empêche
c'est
de
un tout,
dormir.
quoi. Adrénaline, euphorie, excitation, envie. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui s'entremêlent. Et puis surtout rêve, quoi. Enfin, c'est-à-dire il y a plein de scénarios qui viennent dans la tête. Il faut se battre constamment contre ça. C'est ça qui fait aussi que nerveusement ça pompe, quoi. C'est que il y a un contrôle à garder sur soi, quoi. Donc le matin de la finale, ben voilà, j'étais dans un état où je luttais un petit peu contre ça, mais tout en restant enfin voilà, tout en restant facile, naturel. Fallait pas non plus que ça prenne trop mon mental. Enfin, quand je dis lutter, le mot lutter est peut-être un peu fort, mais on va dire je gardais un contrôle sur ces envies-là que j'avais pour rester dans le maximum dans la réalité. Donc du coup, la soirée, elle est arrivée très vite. L'échauffement est arrivé très vite. Je me souviens, enfin franchement, dans des états comme ça, je te dirais que c'est plus des flashs que j'ai. Hein. Je me rappelle que je parlais avec mon entraîneur, j'étais sur un tapis de perche et j'avais les yeux rivés dans le ciel, d'ailleurs sur la lune. J'avais les yeux rivés sur la lune et ça me permettait à ce moment-là un peu de me déconnecter de l'endroit où j'étais. Je regardais la lune et tout, je regardais le ciel et tout en sachant que j'étais à l'aube de ma finale olympique quoi. Ça me voilà, ça on va dire que ça me permettait de respirer un petit peu et de savoir qu'avant tout bah, on est tous sur la même planète mais voilà, c'est quelque chose qui a de la valeur pour nous, mais tout ce qui est autour de nous a autant de valeur quoi. Enfin, tout ce qui est voilà, ce pour quoi on vit, ce pour quoi on respire, les moments partagés, tout ça. C'est tout ça qui me permettait de relativiser, de me dire faut pas non plus tu crois c'est tu pars à la guerre et que ça est décisif, si tu perds tout le monde va mourir. Non, enfin voilà, là c'est une finale olympique, ok, d'accord, mais kiffe juste quoi, te prends pas la tête. Et donc du coup je suis parti dans cet état d'esprit, je suis arrivé sur la piste et puis il s'est passé ce qui s'est passé quoi. Sur la piste ouais ça. La chambre d'appel, c'était quand même quelque chose. Hein. C'était parce que on avait deux chambres d'appel en plus à Rio. On avait un vis-à-vis avec les adversaires qui était assez incroyable, puisqu'on nous avait mis les uns en face des autres. Voilà. Bon après c'est une question de switch. Hein. Il suffit de se remettre dans son truc et on oublie un petit peu tout ça. Mais ouais, voilà, c'était assez particulier l'ambiance qu'on avait ensemble dans la chambre d'appel. C'était à la fois, on sentait énormément d'envie de émanant de chacun. Moi, je sentais énormément d'envie émanant de chacun. Ouais. Je me suis dit, bah déjà, ah, ça veut dire c'est celui qui aura le plus envie qui va tirer son épingle. Voilà.
Ouais.
Donc okay. Voilà, je me suis remis dans mon truc. J'ai dit, allez, ça sert à rien de te sortir de voilà du en tout cas te mettre de parasiter cerveau ou autre, vas-y, va sur la piste et donne tout. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti sur la piste. Il y avait l'entrée en ligne, enfin l'entrée tu sais, sous les projecteurs. C'est un nouveau concept qu'ils font pour les championnats. Ça c'est très bien, qui continue. Où ils font entrer les athlètes un par un petit peu pour les présenter individuellement.
Ouais.
Et à ce moment-là, en plus, je cours, mais je suis tellement relâché, je fais tomber ma bouteille d'eau. Enfin, je me mets dans la main, du coup, je reviens en arrière. Bon, c'est quand même une entrée qui est censée être un peu badass, rien du tout.
Rien. Ouais, il y a pas la planète entière qui te regarde, mais ça va.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est là, tu sens déjà le mec, tu sais pas s'il est là quoi. Si j'étais là, franchement j'étais là, mais c'est juste que voilà, la bouteille est tombée. On se dit, hey, tu sais quoi, tranquille, c'est rien, mets-toi dans ton start. De toute façon, quand le coup de feu il sera parti, voilà, il y aura plus rien, il y aura plus que ce que tu sais faire.
Ouais.
Donc je me suis mis dans les starts et tout, c'est parti. Bon là franchement, j'ai presque aucun flash pour la finale des jeux, j'ai presque aucun flash. J'ai vite fait un flash de quand je fais une erreur vers la cinquième, et je fais une erreur d'impulsion en fait qui me rapproche de la sixième et qui me bloque. Donc du coup, ouais. C'est comme se retrouver devant un mur. Donc j'ai eu cette sensation-là, et bizarrement, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais j'ai eu une sensation d'abandon quoi. Je me suis dit putain, avec l'erreur que j'ai faite, c'est mort. Vas-y, finis ta course. Ça m'en dégoûtait plus d'un, mais finis ta course. On verra ce que ça va donner. Ouais. Et au moment où je fais la faute, enfin je l'avais déjà tellement faite cette faute-là, et enfin pas tellement, mais les fois où je l'ai faite, voilà, tout de suite je me suis retrouvé décalé par rapport à la course. Donc pour moi c'était cuit quoi. Et là, je fais ma course un petit peu, on dirait allez, vas-y, hein, vas-y, termine. Hein. Et là je termine, et je dis, c'est pas moi, j'ai une impression que là, devant moi, il n'y avait pas tant d'athlètes que ça. Il y en avait peut-être deux, mais pas plus, quoi. Et là, je regarde le tableau et je vois mon nom en troisième position. Et là, franchement, j'y ai pas cru, hein. Enfin, c'est pas que j'y ai pas cru, c'est, j'ai dit, non, je suis en train de rêver ou c'est vrai. Je me suis pas pincé, puisque bon, voilà, je me suis dit, attends. Il y a bien écrit mon nom là, troisième. Et après, je commence à me dire les choses. J'ai dit troisième, donc c'est dire médaille olympique. Non, c'est pas ça. Je me dis dans ma tête, non, mais je dois me tromper et tout. En fait, j'avais aussi tellement de merde à l'époque et tout avec certains championnats que aussi ça a un petit peu provoqué cette réaction un petit peu bizarre. Mais voilà, je voulais pas y croire quoi. Je voulais pas y croire et puis au final. Enfin, il a bien fallu, quoi. Il a bien fallu mais bon, ouais, franchement, ça a pris du temps. Même la soirée, après la médaille encore au stade, je comprenais pas. En fait, j'avais l'impression d'être dans un train Disney, tu sais. Voilà, qui déroule et tout le monde des images. Tiens, regarde, la télé, ils sont contents. Tiens, ton coach, il pleure, tiens. Tiens, il y a ta famille qui est là, qui est contente. Tiens, tu vois, j'étais pas dans un truc où je vivais le truc. J'avais l'impression de maîtriser quelque chose, quoi. Pour moi, c'était le petit train attractif qui te montre tes rêves. J'attendais que le rêve se termine, quoi. Enfin, voilà, j'y croyais pas du tout et progressivement, peut-être dans la soirée, je commençais à me dire, ah, c'est peut-être vrai tout ça. il était plus tard que ça, il était peut-être une heure au Club France. Je me suis dit, ben, ça commence à faire long là ce rêve, donc je pense que il y a moyen que ça soit vrai.
Ok. Mais en plus, tu vois, moi je t'ai découvert ce jour-là, j'étais devant ma télé et tu vois, c'est vrai que tu vois, je trouve parmi en tout cas les sprinteurs et parmi les coureurs de haies, tu fais partie des gens un peu discrets, tu vois, un peu plus, peut-être qui se montrent un peu moins, tu vois, il y a quand même beaucoup de testostérone, hein, qu'on se le dise. Et toi, t'es peut-être un tout petit peu plus réservé ou un tout petit peu moins dans le show, quoi, que peuvent l'être certains. Et quand on voit que tu réalises que t'es troisième, effectivement, il y a un petit temps d'appréhension parce que ouais, t'as déjà été déqualifié, comment on dit, disqualifié, ouais, ou mais ouais. Et on voit qu'il y a un petit temps d'appréhension, mais après on voit que j'ai l'impression de voir un mec heureux, quoi. Je me suis dit là, waouh, lui, ouais. il est vraiment vraiment en train de se régaler et ça se voyait, quoi. C'était hyper communicatif et ça faisait chaud au cœur, ça faisait vraiment chaud au cœur. Donc
le côté réservé. Bon, ouais, c'est vrai que on a tendance à me dire souvent que ouais, j'ai l'air réservé, mais bon, je vous rassure, c'est juste que je me contrôle parce que si je commence à être comme je suis avec tout le monde, je me donne pas 2 semaines avant de finir dans un hôpital psychiatrique, hein, bien entendu. Je pense que j'en fais un peu plus d'un. Je suis un peu ouf, hein, quelque part dans ma façon de faire et tout, mais. Je peux pas ouvertement montrer ça encore. Donc hein, il va falloir patienter, les gars. Non, mais je suis réservé par rapport à une chose aussi, hein. Je viens de Martinique, donc j'avais une culture un petit peu différente quand je suis arrivé en France. Donc ça, c'était assez tard finalement dans l'évolution des choses, l'évolution de ma vie. Je suis arrivé j'avais 18 ans, donc quelque part j'avais fait toute ma culture, elle était encore antillaise, donc elle était encore que antillaise, parce qu'aujourd'hui elle est encore antillaise, mais ça fait presque autant de temps que je vis en métropole qu'en Martinique, donc on n'avait pas les mêmes les mêmes façons de voir et tout, bien que on arrivait quand même à délirer très bien, mais j'étais un petit peu dans la découverte des choses, un petit peu curieux de voir comment ça se déroulait ici. Ça aurait été pareil si j'étais allé aux États-Unis, ça aurait été pareil si j'étais allé en Afrique ou voilà, c'est des cultures, des façons de voir différentes. Et le côté réservé que j'ai quand même, a été plus marqué et peut-être a été plus remarqué par les autres autour de moi, quoi.
Ouais, ok. Ok. Ben ouais, tout s'explique alors. Et
ouais, voilà.
Et ouais, je voulais jongler là après ce moment, j'imagine que c'est le plus beau de ta carrière, c'est peut-être un moment inoubliable. Et moi on en a parlé hyper brièvement de ce qui s'était passé à Zurich où tu te fais disqualifier alors que t'es troisième. Ça, j'imagine que c'était peut-être le pire moment que t'as vécu en tant que sportif. C'était les championnats d'Europe, tu termines troisième et tu marques sur la ligne, quoi.
Ah ouais, c'est simple, hein. Pour moi, c'était franchement, lorsqu'ils ont annoncé la disqualification, je me
Ouais.
suis dit, ça y est, c'est fini, hein. C'est bon, j'arrête ce sport. Ah, j'étais décidé, hein. J'étais
Ah ouais.
décidé, je me suis dit, allez, c'est bon, il y en a marre. Attends. Parce que bon, avant ça, j'en avais raté, hein, des médailles de peu pour des conneries, voilà, sans être vulgaire, hein, désolé, mais pour moi c'était vraiment bon, bon, je vais pas tout raconter, mais voilà, bon, je vais raconter une des anecdotes, sachant qu'il y en a à cette hauteur d'anecdotes là que je vais donner, il y en a peut-être 6 comme ça où je rate des médailles. Donc à Barcelone en 2010. Je fais quoi? Je fais, je me mets bon finale dans starting block. Le starter, il dit, il donne ses ordres et tout, il dit prêt. Et là, en fait, on avait des starting blocks avec des cellules. Mais à l'époque, pour que qu'ils aient, on va dire le pile le temps de réaction. Alors, enfin, qu'est-ce que j'ai des cellules? Non, c'est des capteurs, pardon. Je suis dans les chronos là. C'est les capteurs, des capteurs de temps de réaction qui étaient faits avec des petits ressorts. Mais le problème avec ces petits ressorts là, c'est qu'ils claquent, quoi. Ils claquent et le comment dire, le signal n'est plus comme dans la saison au championnat. On a des signaux qui sont à l'arrière, avec des haut-parleurs, à l'arrière de chaque starting block. Et le bruit du signal est un petit peu métallique. C'est un bruit un peu, un truc comme ça, tu vois. C'est pas comme un coup de feu, c'est pas comme un coup de feu traditionnel, quoi. Donc, moi, sur le coup, voilà, je m'étais pas encore vraiment habitué à cette époque-là. Et là, t'as à ma droite un Russe. Qui au prêt, en fait, lorsqu'on dit prêt, il a un petit spasme là, dans les starting blocks, là, deux doigts de faire un faux départ, et son start, il fait le bruit métallique là, enfin, il fait un bruit métallique du coup à cause du ressort qui était pas en pression, il fait tic, tic, un truc comme ça. Et moi, je me suis focalisé sur un truc qui allait venir derrière, un bruit un peu métallique que je connaissais pas, donc du coup, j'ai eu une petite, alors son spasme, il me l'a communiqué. Un petit peu comme ce que Bolt a vécu avec Blake lorsqu'il était éliminé en faux départ. En fait, il y a Blake qui bouge à côté et lui il sort. Eh ben, c'est la même chose, c'est le même problème. Et bon, j'ai réussi à me sauver, c'est-à-dire à pas sortir complètement des starting blocks, mais j'ai eu un petit décollement du talon d'une dizaine de centimètres, non, un peu moins peut-être 5-8 centimètres du starting block. Et si tu veux, le coup de feu, il est tombé à ce moment-là, quoi. Il est tombé à ce moment-là, donc du coup, je vois un mur qui part devant moi, je pars en précipitation, et là, il se passe quoi? Je trébuche. Départ chaotique, quoi. Je trébuche. Je me rattrape limite avec la main. Il y a une photo là-dessus, franchement incroyable. Je me rattrape avec la main. Et là, je sais pas par quel miracle, j'arrive à passer la première aide. Je dis, putain. Et là, dans la cour, je dis, mais non, pendant toute la cour, je dis ça, mais non, rappelez-moi ça. Et là, je finis, enfin, je cavale, je cavale, je cavale jusqu'à la ligne. Et là, je fais quoi? Je fais quatrième de la course à 2 centièmes du troisième.
Ouais,
Et dans la
incroyable.
tête, je me dis, mais non, mais c'est quoi ce truc? Attends, clairement, avec tout ce que j'ai perdu là, soit je gagnais, soit je faisais deuxième. Là, je fais quatrième à 2 centièmes. En plus, le truc bien de mettre les boules. À 2 centièmes du
Ah,
troisième.
dégueu. Ah, putain, c'est fou.
Du coup, franchement, c'était l'une des choses que je crois que c'est l'une des courses que j'ai le plus mal vécu. Je savais que voilà, certains auraient pu dire ah c'est bien, maintenant je sais que je peux faire que je suis podiumable et tout, mais bon, j'en avais déjà raté avant. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit franchement, ras-le-bol, quoi. Il y a toujours un truc. Et puis là, vraiment, le truc, il me montre que j'aurais pu l'avoir. T'aurais pu, mais non, tu l'as pas. C'est clairement ça.
Pas cette fois-ci.
Donc, du coup, ouais, non. Enfin, pour cette expérience-là que j'ai eue, je peux te dire que c'était l'une de celles qui a rempli le plus le récipient qui m'a fait vraiment déborder le vase.
Ouais, mais je peux imaginer, mais c'est vrai que quand on lit ton parcours, t'as quand même quelques petites poisses ou quelques petites couacs qui franchement, enfin, moi, en tout cas, ça m'impose ça, je trouve que ça impose le respect parce que t'as jamais rien lâché et t'as continué de t'accrocher, quoi. Et c'est après, effectivement, avoir passé tous ces épisodes un peu périlleux où, effectivement, tu méritais d'avoir le podium, que t'as touché, que t'as touché des médailles encore plus belles. Donc, franchement, respect, parce que j'en connais plus d'un qui aurait abandonné après ça, quoi.
C'était pas passé loin. J'ai dit après Zurich, bon, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui m'a poussé à continuer sur malgré cet échec, parce qu'on venait de commencer un nouveau travail, je venais d'arriver dans un nouveau groupe d'entraînement, donc c'est tout ça qui a fait. Mais je serais encore dans mon ancien groupe d'entraînement à l'INSEP et je serais arrivé à ce stade-là, je pense vraiment que j'aurais arrêté. Donc c'était vraiment pas passé loin, quoi.
Ouais, ok. Et bon, l'heure tourne pas mal. Ouais, on a quand même été bien bavard. Il y avait peut-être un rapide sujet, peut-être un peu sensible, mais tu me diras si t'as pas envie d'en parler. Vu que t'as mentionné l'INSEP, c'était Jimmy qui m'en avait parlé hors antenne et il m'avait dit ouais, j'aimerais bien écouter Dimitri sur ce qui s'est passé un peu avec l'INSEP, parce que peut-être tu pourras mieux l'expliquer que moi aux auditeurs, mais ça n'a pas toujours été l'idylle amoureuse. Et ouais, je voulais te demander un peu qu'est-ce qui s'est passé concrètement, et tu vois, tout en restant bienveillant, et puis on n'est pas obligé d'y passer des plombes, mais et comment surtout toi tu l'as vécu. Moi, c'est ça qui m'intéresse de voir, c'est comment toi tu le prends et comment tu réagis et tu rebondis après un épisode comme ça.
Ah ouais, bon, après c'était on va dire que voilà, j'ai été on va dire j'étais plutôt le joueur qui était prometteur sur un stade, et puis qu'à un moment donné voilà, on me demandait de marquer un but ou deux par match, et puis au bout du huitième match on se rend compte que là c'est bon, il a marqué un but dans chaque match, dans celui-là, l'équipe s'en est pris deux, quoi. Donc, ce match-là fait que, lui, il va aller sur les bancs. Alors, c'est clairement ça, pour résumer l'histoire, c'est que ça, voilà, chaque année, je marquais un but. Et puis, la dernière, comme j'en ai pas marqué, on m'a mis sur le banc, quoi. Donc, après, ça pique un petit peu, puisque bon, j'avais quand même montré que voilà, j'étais capable de progresser chaque année. Mais de prendre une décision sur une seule année, après voilà, il y a eu d'autres raisons. J'ai plus d'art. même là pour le coup, on va dire que j'ai pas tiré le gros lot. C'est quand c'est au niveau des hébergements à l'INSEP où clairement il y avait eu un problème de dévier en fait au niveau de la douche. J'étais au-dessus de la chambre de Jean-Baptiste Alaise.
Ok.
Je sais pas, milieu fin d'année, là ils se rendent compte dans la chambre de Jean-Baptiste qu'il y a une grosse tache jaune au-dessus de son lit. au-dessus de son lit. Donc quoi, l'eau serait alors l'eau s'est infiltrée, dans tous les cas l'eau s'est infiltrée dans les murs, tout ça. Il y a un devis qui a été fait à plus de 15 000 euros, et que en gros ce serait moi qui serais allé trifouiller alors ça c'est pas vraiment l'INSEP, c'est Accor, hein, pour pas me mettre mélanger, que je serais allé trifouiller dans le levier, et que du coup j'aurais provoqué une fuite qui aurait donc du coup fragilisé le plafond pour me retrouver un beau matin au lit avec JB parce que le plafond se serait effondré tout tard.
Ok.
Parce que là où il y avait la tâche, c'était plus au-dessus de son lit, donc je me suis dit, tu sais, JB, un matin on va se réveiller ensemble, tu verras, toi et moi. On se réveillera sous le même lit. Par contre, je peux pas te garantir que tu seras en bon état.
Ouais.
Mais moi, je pense que ça pourrait aller. Il a pas rigolé sur le coup.
Donc, pour ça, il est drôle, JB.
Ouais, il est drôle. Ouais. Et donc du coup, franchement. Ils avaient peur de ça, du coup, Accor, et le courant, il est très mal passé par rapport à ça. Ça s'est passé l'année où je progressais pas. Je recevais 15 000 colis Nike. Nike avait une politique à l'époque où ils envoyaient plein de sapes. T'as l'impression que c'était des stockages des usines chinoises, qui savaient pas ce qu'ils allaient faire avec. Ils donnaient aux athlètes parce qu'on avait beaucoup trop de livraisons Nike. Enfin, j'ai pas mis tiers de ce qu'on m'a livré. Hein.
Ah ouais.
Heureusement que derrière ils ont revu tout ça et qu'ils ont fait un truc propre, parce que ouais, ça fait du gaspillage. J'en ai encore des vêtements comme ça. Enfin, je peux sponsoriser d'ailleurs un athlète. Il y a pas de problème. voilà, j'avais énormément de cartons, si bien que les étagères de support de rangement à l'INSEP devenait bancal, quoi. Si les étagères étaient à 90 degrés, pour tenir à la fin, ils étaient plus vers 60-40 degrés, quoi. Donc le truc, c'était joie à l'équilibriste. Et là, ils ont dit, mais c'est du n'importe quoi. Alors là, vous, les étagères, déjà vous pétez tout, le sol bientôt il va s'effondrer, et en plus de ça les cartons ils vous menacent, hein, à la seconde, à n'importe quelle seconde ils vous tombent dessus. Et je pouvais rien faire, j'avais pas le choix, je recevais des cartons, j'allais pas les laisser dehors, hein. Donc du coup la chambre j'y rentrais je montais sur des cartons pour rentrer dans la chambre, quoi. C'était limite, je touchais pas le sol, hein. À un moment donné, je voyais plus le sol. Je marchais sous les cartons, je me couchais direction mon lit. Voilà. Non, blague à part, mais c'était pas loin, quoi. C'était vraiment le bordel, et tout ça, ils ont pas apprécié. Ça pète en ma faveur, on va dire. Et, ça a favorisé la décision de me mettre à l'écart à l'INSEP. Enfin, à l'écart du pôle interne de l'INSEP. Mmh. Mais quelque part, moi, je les remercie, parce que derrière, j'ai pu trouver un autre système d'entraînement, et puis qui fait que, ben, j'aurais jamais pu avoir ce que j'ai pu obtenir aujourd'hui, la connaissance et niveau qui m'a été transmise par mon ancien entraîneur, Giscard Samba. Voilà, que je salue, si j'étais resté dans ce moule-là, comme j'ai dit, hein, au mieux j'aurais fait ce que j'aurais fait à Zurich, et puis derrière j'aurais arrêté l'athlète, quoi. Donc peut-être un mal pour un bien.
Ouais, exactement. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Et comment est-ce que tu reviens, du coup? C'est eux qui t'appellent et qui te disent, bon, finalement, vu que ça marque des buts, tu reviens, ou comment ça se passe, tout ça?
Ah ouais, ben non, après c'est pas la même équipe, hein, de toute façon, donc ceux qui sont là aujourd'hui, ils s'en fichent un petit peu de ce qui s'est passé à l'époque. Et puis moi aussi, hein, franchement, moi je suis pas rancunier, je suis pas quelqu'un de rancunier de base. J'oublie pas, mais voilà, c'est moi, pour moi l'INSEP reste un outil enfin l'un des meilleurs outils qu'on ait en France, et puis
Bien sûr.
et ça changera pas. Enfin voilà, c'est un bon repère pour un bon repère d'entraînement pour une bonne zone d'entraînement pour n'importe quel sport. Donc non, on garde non, moi je garde de bonnes relations avec l'INSEP, hein.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais merci de nous avoir partagé un peu ces petites anecdotes. On a compris que Jean-Baptiste Alèze était pas très
Ouais.
confiant avec une fuite d'eau au-dessus de chez lui,
Ouais,
mais
non,
ouais.
non, et c'est pas le fait de se retrouver sur le même lit qui gênait, hein. C'était, voilà, de savoir si il allait être dans un bon état.
C'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, merci de nous avoir partagé tout ça. L'heure tourne pas mal et il va être tard. Il va falloir qu'on retourne un peu à nos occupations.
Ouais,
Bon, on se marrait bien. Moi, je serais bien resté 2 heures de plus, mais bon, il faut pas abuser non plus.
je sais pas, ouais, bien sûr, hein. C'était un plaisir de parler, partager un peu avec toi. Et ouais, j'aime bien le concept de tes podcasts. Et non, c'était une belle expérience.
Bah cool, bah.
J'espère qu'on pourra partager un truc sympa par la suite.
Bah carrément, je dois revoir Pierre en plus bientôt. Je suis de temps en temps à l'INSEP. Bon, en ce moment, tu l'imagines, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, on habite pas loin, donc il y a que les montagnes qui se croisent pas, comme disait ma grand-mère. Voilà.
Exactement.
Tu vois, la toute dernière question, un peu pour clôturer ces interviews, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir, toi, ce serait qui le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu aimerais bien écouter sur le podcast?
Alors, ça c'est une question. Prochaine athlète que j'aimerais écouter sous podcast.
Je
Attends,
préviens
écoute.
pour meubler, j'ai pas du tout.
Moi, j'aimerais bien écouter Made in.
C'est vrai?
Made in, mais qui c'est? Parce que Made in, c'est.
Grave.
Allô? Ouais, dis-moi.
Ouais, non, j'ai dit
Ouais,
grave,
excuse-moi,
grave,
j'ai cru que
j'adore ce qu'il fait.
t'avais écouté. Ouais, mais Made in. En plus, à l'époque de l'INSEP, c'était vraiment, on était voisins, on se faisait des FIFA, plus savoir, enfin, plus compter, on se regardait des mangas aussi. J'avais initié de force dans les mangas. J'ai dit, tu rates quelque chose et tout, regarde et tout. Et Made in, et en plus, il a un sérieux. Moi, franchement, je suis en admiration de son sérieux à chaque fois. Je me dis, mais c'est un fou, comment il fait pour être aussi assidu. Et puis bon, après, c'est sa personnalité, donc c'est ce qui fait tenir, mais il a un sérieux. Je pense que si on devait noter le sérieux, et puis comparer, il y a très peu qui arriveraient à son niveau, quoi. Donc c'est fou, quoi. Et ouais, Maïdine, ouais, pour moi, c'est un athlète que j'aimerais bien que tu, voilà, t'appelles un de ces jours.
Vas-y, ça marche. Bah écoute, c'est noté. Écoute, merci infiniment, Dimitri. C'était un énorme kiff de pouvoir échanger avec toi pendant cette grosse heure. Tu m'as bien fait marrer, franchement. Et je vois un petit peu effectivement le Dimitri au naturel, donc ça fait hyper plaisir et merci pour toutes ces anecdotes et pour ta générosité parce que c'est cool, t'as joué le jeu à 100% quoi.
Ben écoute, non, mais c'était un plaisir. Franchement, il n'y a pas de quoi. Hein. Je t'ai dit, bonne entente, il n'y a pas de souci.
Ça marche. Salut Dimitri.
Salut Bart.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.